Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Salut, salut, bon jeudi 23 mai. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme en cette courte semaine parce qu'on avait un beau week-end de 3 jours. Là, on l'a fini puis on a un de 2 jours. Ça va peut-être paraître, mais quand même. Hey, ce matin, on s'est levé avec des petits nuages, des averses aussi, puis on s'est réveillé cette nuit avec un orage. Bien, c'est un peu le même scénario pour toute la journée, ouais. Prévision d'orage avec quelques averses aujourd'hui. 26 degrés, j'allais dire 28, mais c'est 26 sur le radar. C'est un peu étouffant, c'est un peu humide. Avez-vous officiellement sorti le ventilateur des boulamites et où trouver la manette de l'air climatisé? On en a besoin ces nuits-ci. Je pense que ça va devenir de plus en plus important d'en avoir pour avoir des nuits confortables, hein, ce genre d'appareil-là pour nous rafraîchir. Puis aussi, je jasais avec des gens hier qui disaient il y a bien juste au Québec qu'on passe d'un 12 degrés à un 30 degrés en l'instant de 2 jours. Bien, vous aviez bien raison. Puis c'est pire dans les dernières années. Bienvenue dans l'RCV à 10h03. Bien, mon nom, c'est Pascal. Pascal CV. Voilà pourquoi ben, c'est une heure ensemble. Je vois que les gens sont déjà bien en poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce show-là est un peu communautaire. Avec tous les sujets qu'on aborde, avec toutes les réflexions qu'on a, ben, on le fait en gang. Donc, www.twitch.tv/blvd/fm pour venir avec moi en réel ou presque. Là. En fait, au moins, on peut se voir minimalement. C'est la chaîne blvd/fm, comme je vous disais. Puis là, je vois déjà les salutations qui entrent, les personnes qui sont là habituellement. Et ces gens-là aussi discutent entre eux. Fait que c'est comme vraiment le fun d'avoir ça. Sinon, 88-971-1021 par texto. J'aimerais ça savoir, vous m'écoutez de où en ce moment? Je discute avec des gens qui sont à quel endroit dans la ville. J'attends 88-971-1021. Le proverbe de la journée, c'en est un excellent. Je l'ai beaucoup aimé, lui. J'ai aimé tomber dessus. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Je l'avais jamais entendu, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la catégorie « on fait pas d'omelette sans casser deux » ou « Pierre qui roule n'amasse pas mousse », là, un proverbe assez connu. Mais pour ma part, c'est la première fois que je tombais dessus. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Soyez le maçon de votre vie, puis attendez pas de tomber au pied du mur non plus pour l'être. Hein. Hey, hier, Yannick et moi, on est dans une incursion à la Maison de la littérature. Si vous m'aviez dit qu'un jour, j'allais assister de mon plein gré à la conférence de mon collègue Yannick Marceau à la Maison de la littérature, j'aurais pas cru du tout ce scénario-là, mais il a été bon. Puis je vais le dire dans mon émission parce que je vais le niaiser dans la sienne. Comme ça, il s'enflera pas trop la tête, mais il était super bon. Puis la question était extrêmement pertinente. Vous connaissez Antonine Iaccarini, là, l'analyste politique, on la voit un peu partout, puis elle parle ici souvent aussi à Boulevard 102.1. Bien, elle a commencé un podcast qui s'appelle Duo, c'est disponible sur toutes les plateformes. Puis dans son podcast, elle prend une citation à chaque semaine, une citation politique, puis elle l'analyse avec un peu tout le monde. La dernière qui l'a fait, c'est Agnès Maltais, celle qui s'en vient, Val Beaudoin, mais elle a ouvert sa saison avec cette question-là qui est fondamentale. En fait, c'est quoi la limite journalistique? Elle est où la ligne qui différencie l'opinion d'une nouvelle? Puis, ça paraît simple comme ça là, pour une question de conférence, si on veut, mais c'est beaucoup plus complexe. Puis, il y avait plein de sous-questions. Dans le podcast, j'avais répondu à cette question-là avec Antonine Iaccarini dans Duo, mais hier, c'était vraiment plusieurs panélistes sur une scène issus de la presse écrite, de la presse télévisuelle ou encore de la radio, comme Yannick, qui discutaient ensemble. Puis pour certains, ils ont fait les deux, autant de la nouvelle que de l'opinion. Puis pour d'autres, ben, c'était que de l'opinion. Puis pour d'autres, ben, c'était que de la nouvelle. Mais c'était vraiment intéressant dans le courant actuel de se rendre compte de tout ce qu'on doit peut-être réanalyser, ce qu'on doit analyser personnellement, ce que les patrons d'entreprise doivent analyser aussi, mais ce qu'en tant que citoyen, puis j'allais dire contribuable, parce que je pensais peut-être à Radio-Canada, puis nos taxes, impôts qui financent quand même un certain service de nouvelles, doivent aussi sur quoi ils doivent réfléchir. On doit réfléchir à ce qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent de l'actualité. On doit réfléchir à ce qu'on encourage aussi. On doit réfléchir à savoir si on devrait recommencer à payer pour de l'information pour s'assurer d'avoir une qualité. Tu sais, juste du journalisme d'enquête, s'il n'en existe pas, il n'y a pas de gens qui la commandent, comme un, je sais pas, un Martineau. Non, parce qu'il se base sur des enquêtes ou de la nouvelle pour émettre un commentaire. Même chose de votre côté. S'il n'y a pas de journaliste d'enquête, s'il n'y a pas de nouvelle, c'est un petit peu plus difficile de se faire une tête aux prochaines élections et donc de choisir les leaders de demain, ceux qui vont gérer notre pays, qui vont gérer notre province ou encore notre ville. Ça paraît un peu acquis à travers le temps. Mais ça reste que pour avoir plongé là-dedans puis avoir côtoyé beaucoup de gens, veux pas, ça fait partie de moi depuis 10 ans, il y a de la complexité là, qu'on peut ignorer. Soit ça prend beaucoup de moyens. Faire de l'enquête, là, des fois, c'est une journée complète dans des documents, à faire des demandes d'accès à l'information, à rédiger des courriels, puis à la fin de ta journée, tu n'en as pas de nouvelles. Mais tu as travaillé pour en avoir une peut-être dans 5 jours, puis peut-être qu'elle va rouler cette nouvelle-là jusqu'à l'Assemblée nationale, va avoir une période de questions, puis finalement, il va y avoir des scandales qui ne seront pas étouffés, on va les mettre au jour, ou encore des projets de loi qui vont découler de certaines affaires, ou encore des situations de citoyens, de citoyennes qui vont avoir été mises en lumière, puis qui vont avoir été réglées de cette manière-là. Mais pour pouvoir le faire, il faut du temps. Mais il n'y en a plus du temps dans les médias. Pourquoi? Ben parce qu'il y a moins d'argent. Fait que c'est quoi la solution en ce moment? Puis je ne suis pas certaine, puis je veux pas parce que je veux prêcher pour ma paroisse, c'est sûr, j'ai un certain biais, mais je ne suis pas certaine que toute l'information qu'on retrouve sur TikTok ou encore Facebook ou Instagram, peu importe où on s'alimente, même Twitter, c'est la meilleure. Et là où le bas blesse, c'est quand on se rend compte que ce sont certains articles ou encore certaines façons de faire du journalisme qui est plus populaire que celle qui est objective, neutre ou qui rassemble autour de faits. L'importance est toujours là sur les faits. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'engouement pour l'opinion. Ce qui est aussi une bonne chose. Ça amène le débat, ça amène... Il y avait une journaliste qui a travaillé à l'agence France Presse hier, qui était sur place, je la salue, Léa, entre autres, qui a parlé du clash aussi de débat entre le Québec puis peut-être l'Europe. Bon, allons-y avec la France. Ils n'ont pas peur de se coltailler, ils n'ont pas peur de s'égratigner, ils n'ont pas peur de même se ramasser dans leurs idées et de ne pas avoir d'idées préconçues. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire avancer un débat puis de ne pas le prendre personnel. Puis il y a ça aussi. C'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose ou on a statué sur où est-ce qu'on s'en va mentalement par rapport à une opinion qu'on est obligé d'être rigide puis de s'y tenir. En fait, je pense que c'est une preuve d'intelligence de se modeler selon ce qu'on entend, ce qu'on ajoute comme information, selon le temps qui passe, selon les connaissances de d'autres personnes, le vécu de d'autres personnes. Ça, peut-être que le bas blesse aussi, un peu, quand même, au Québec. Puis c'est intéressant d'entendre Yannick jaser de ça. Puis on en reparlera, comme je vous disais, dans le Marceau le midi, mais on pouvait poser des questions et tout. Puis il y a une question que j'ai posée, moi, c'est pourquoi Yannick a accepté de travailler, par exemple, avec moi pendant 1 an dans des situations de débat, dans des situations d'opinions qui diffèrent, de vécu complètement différent, ne serait-ce que je suis une jeune femme, c'est un jeune homme, de langage différent, de passé différent, de vision différente. Pourquoi il a accepté ça? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les médias qui n'accepteraient pas ça, parce que pour eux, le débat, c'est perdre la face si jamais ils ne le gagnent pas. Mais au bout du compte, on fait ça pour qui? On fait ça pour l'auditoire, on fait ça pour les gens qui nous écoutent. Donc, il faut quand même user d'intelligence et faire refléter l'intelligence de notre auditoire. Le débat n'est pas obligé d'être confrontant tout le temps. Peut être en réflexion, en philosophie. Le débat peut ne pas être concluant sur un statut. Soit finalement on est pour, finalement on est contre. Puis assurément qu'on ne fera jamais quelque chose de stagé. Donc, quand on est d'accord, on est d'accord. Mais ça peut quand même irriter quelqu'un qui a un premier micro. Ça veut dire que c'est son émission. Ça peut être irritant parce qu'on ne veut pas, diminuer la valeur que l'on a. Mais ce n'est pas diminuer la valeur que l'on a. Mais ce n'est pas tout le monde, ça, qui a cette façon de penser-là. Surtout pas dans les médias, surtout pas dans l'opinion. Donc, pourquoi il a accepté ça? Puis on en a jasé dans la salle. Puis il y a une affaire qu'on est bien triste, en fait, c'est qu'on n'avait pas idée du fait qu'on pouvait vous inviter, on pouvait vous en parler hier de cet événement-là. C'est comme tomber en 2 chaises, puis on croyait qu'on n'avait pas le droit, que c'était déjà plein et ou fermé. Puis au final, ça ne l'était pas, puis on a bien regretté. On aurait aimé ça vous avoir dans la salle pour discuter avec les panélistes qui étaient sur scène. Salutations aussi à Valérie Gaudreau qui était là, du Soleil, qui a été patronne aussi, qui avait une autre vision. Mais pour vrai, ça a été sensationnel. Yannick a été très bon. Je l'ai dit dans mon émission, je l'agacerai dans la sienne. Mais il y a vraiment quelque chose de le fun qui s'est passé hier, puis je pense que ça devrait prendre encore plus de place à Québec, surtout dans notre ville où la radio parlée a tellement de chance d'être implantée comme elle est implantée. C'est un bonheur et un cadeau d'avoir un micro à la Radio de Québec. Merci aussi pour le fait d'être présent jour après jour puis juste de me donner une heure dans votre journée depuis quelques mois. C'est un grand bonheur puis c'est touchant pour moi. OK. Trêve de conversation sur le sujet. De toute manière, on en reparle plus tard. J'ai très hâte d'aller le rejoindre dans un instant. Boris Proulx, qui travaille pour Le Devoir. On l'a entendu ici souvent. Je lui ai demandé de nous faire une revue de ce qui se passe avec Justin Trudeau. Là. C'est quoi le pouls? Es-tu stressé? Es-tu en contrôle? C'est quoi ses défis? De quoi on parle ces temps-ci sur la colline à Ottawa? Boris Proulx, vous l'aimez, je l'aime. C'est un homme très intelligent. Puis surtout, il couvre au quotidien ce qui se passe à Ottawa. Puis on va pas assez faire de tour de ce côté-là. Que vous aimiez ou pas Justin Trudeau, vous allez trouver votre compte avec Boris Proulx. Restez là après ça. Amène de Terrible News, le stéréo à Boulevard 102.1.
Pascal CV.
C'est 21 degrés à l'extérieur. Ben oui, c'est humide. Oui, on attend des averses, on attend des orages aussi. On a eu un peu cette nuit, mais c'est ça la température pour aujourd'hui. On va retrouver le soleil dès demain. Faut pas s'en faire. Mais voilà, faut passer à travers ce jeudi-là. Puis il y a quelque chose de réconfortant puis de plaisant aussi dans cette petite température de milieu de semaine. Jeudi 23 mai, très heureuse de le retrouver au micro. Je l'estime beaucoup, ne serait-ce que pour travailler sur la colline du côté d'Ottawa. Là, il faut avoir beaucoup de yeux, beaucoup d'oreilles, beaucoup d'énergie. Il s'appelle Boris Proulx, il est journaliste au Devoir. Salut Boris!
Salut Pascal, et c'est réciproque, j'adore ton travail.
C'est vraiment gentil. Mais honnêtement, il faut avoir de l'énergie ces temps-ci pour suivre Justin Trudeau, pour suivre tout ce qui se passe dans l'actualité. On le sent que la campagne électorale est, entre parenthèses, à nos portes, mais on sent aussi que tout ce qui est géopolitique prend beaucoup de place. Puis au-delà de ça, l'économie. Là, écoute, je pourrais en nommer des choses, mais d'abord et avant tout, Boris, comment ça va sur la colline à Ottawa?
Ça va bien. Les élus reviennent d'une petite semaine de vacances. Et là, je mets des guillemets à vacances parce que c'est leur travail en circonscription. Là. Donc, souvent, ils ont des piles incroyables là, de cas de comté qu'on appelle. Donc, des gens qui ont des problèmes d'immigration, des problèmes avec Service Canada, etc. C'est comme le temps de l'année où les députés doivent gérer tous ces dossiers-là. Mais ils sont de retour à Ottawa depuis lundi. Souvent, ils reviennent avec une nouvelle énergie pour... un blitz là, de session parlementaire, mais là, le blitz dure pendant 5 semaines. Donc, on en a jusqu'au 21 juin maintenant de session parlementaire et ça risque d'être un peu intense parce que souvent, quand c'est autant de semaines, disons, avant, en plus en été, là, avant la fin de la session, souvent, ben, il y a les esprits s'échauffent, des insultes fusent. Donc, je sens que au mois de juin, là, si on se reparle, là, peut-être que l'ambiance ne sera plus aussi bonne.
Mais tu sens déjà qu'il y a un certain climat de tension politique là, entre Justin Trudeau, Poilievre, peu importe le NPD. Où est-ce que ça se situe, ce climat-là, hors prise de parole?
Oui, ben c'est pas nouveau dans le sens. C'est un peu une escalade. Hein? Vous avez vu, je pense, tout le monde en début d'année, il y a quelques semaines, quand Pierre Poilievre s'est levé, quand Pierre Poilievre a été mis dehors de la Chambre des communes carrément pour avoir traité le premier ministre de WACO. Ouais. C'était pas un incident isolé. Hein? On sent qu'il y a de plus en plus de mots, disons, non parlementaire lors de la période de questions où les élus de l'opposition essaient de mettre le paquet, d'essayer de tracer le trait un peu gros sur tout ce qui est attribuable au gouvernement, à quel point le Canada va mal depuis les 9 dernières années de Justin Trudeau. Et souvent, ils utilisent un vocabulaire, disons, limite pour passer au Parlement, de plus en plus limite. Et là, le président a tracé la ligne à WACO. Là, ça, c'était trop grave pour lui, aller dehors. Mais d'une manière très générale, on sent que, en effet, il y a parfois des échanges où on ne sent pas du tout qu'on est dans le respect là, au Parlement et ça s'aggrave sans cesse. En comité parlementaire, il y a le député libéral Francis Drouin qui a dit à des experts là, invités devant le comité parlementaire « Vous êtes des pleins de marde ». Pardon de l'expression, mais bon, c'est sûr que ça a choqué des gens d'entendre ça peut-être au Parlement. Mais les élus ici, c'est qu'ils se côtoient au quotidien. Hein, c'est des adversaires politiques, ils se connaissent bien et des fois, il se laisse emporter là, avec des mots comme ça, et de plus en plus.
Est-ce que tu sens que c'est personnel ou tu sens que c'est juste une joute politique? Parce que ça fait quand même une bonne différence, là.
Les deux, vraiment. Là, on sent qu'il y a de la stratégie là-dedans. Quand je disais toujours jouer sur la limite des propos acceptables, moi, je pense que ça fait partie de la stratégie parce que ça fait des bonnes clips pour les médias sociaux. Quand M. Poilievre a été mis dehors de la Chambre des communes, il y a une autre députée, d'ailleurs, qui avait été mise dehors juste avant lui. Ça a un peu passé inaperçu, mais les élus peuvent utiliser ces clips-là, faire des levées de fonds avec ça, en mode « regardez, le président, l'élu libéral qui est l'arbitre des débats nous met dehors pour aussi peu ». Donc, ça vient un peu fouetter la base des troupes. Et en politique fédérale, ben, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On veut lever des fonds, évidemment, pour faire la prochaine campagne. Donc, c'est utiliser tout ça pour des clips, pour des stratégies. Mais à l'occasion, là, on sent qu'il y a des élus qui ne s'entendent pas d'une manière personnelle entre eux. Là. C'est arrivé une couple de fois depuis mes années ici à Ottawa où il y avait carrément des conflits de personnalité ici sur la colline. Et c'est sûr que dans le climat actuel, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'amour là, entre M. Poilievre et son style très abrasif et des politiciens comme Justin Trudeau et Chrystia Freeland qui en sont un peu la cible constante. Là, des fois, ça joue assez dur.
Mm. Bon, Boris, tu es sur la colline d'Ottawa. Tu gères au quotidien tout ce qui est scrum pour ton média, Le Devoir. Est-ce que tu peux nous faire un genre de petit récapitulatif d'où on en est avec les défis du côté du fédéral, mais surtout les enjeux principaux sur lesquels vous questionnez constamment les politiciens ces jours-ci?
Bien, c'est sûr que le gouvernement actuel, le gouvernement de Justin Trudeau, est d'une position assez peu enviable. Il traîne de l'arrière dans les sondages nationaux d'à peu près 20 points. C'est assez majeur, là. Et les élections ont lieu au plus tard à l'automne 2025. On a un gouvernement minoritaire. Il pourrait tomber en théorie à tout moment, mais étant donné cette entente avec le NPD, bien, il y a des bonnes chances que ça dure jusqu'à la date limite. Là. Donc, on sera en campagne électorale l'été, pas lui qui vient, l'autre, au plus tard. Et dans ce contexte-là, ben, c'est sûr que chaque événement international, je parle d'événement international parce que en ce moment, la guerre entre Israël et la Palestine, ça occupe beaucoup de place, ça met M. Trudeau dans l'embarras. Bien, c'est sûr que c'est pas facile, hein, étant donné le retard dans les sondages. On sent que, sa marge de manœuvre est très, très faible. Et on sent que le gouvernement fédéral veut essayer de ménager la chèvre et le chou un peu dans tous les dossiers. Hein. C'est la même chose en environnement, c'est la même chose dans beaucoup, beaucoup de dossiers. Mais sur le dossier international, en ce moment, avec le conflit qui fait rage à Gaza, on dirait qu'il y a des positions complètement irréconciliables dans la population, mais aussi dans son caucus, entre les élus libéraux. Il y en a qui sont très fortement en faveur de la Palestine là-dedans et d'autres très fortement en faveur d'Israël. Donc, le premier ministre a du mal, et c'est vraiment dans l'actualité ces temps-ci, à trouver le mot juste, à être ni trop d'un bord, ni trop de l'autre. Et puis ça, ben, je sens qu'il voit l'échéance électorale et ça le stresse, le gouvernement, là, parce qu'il ne veut pas s'aliéner exactement toute la partie de la population qui est d'un bord ou de l'autre.
Il y a plein de choses là-dedans. Bon, la première, moi, ça me fascine qu'un enjeu international, puis de façon positive, parce que ça reste ce qui me passionne personnellement comme individu depuis tellement longtemps, mais qu'un enjeu international comme celui-là refasse surface dans les scrums et prenne toute la place médiatique dans les articles et autres. On n'a pas vu ça depuis, je ne sais pas moi, la guerre en Afghanistan, ou presque. Là. On l'a vu un peu avec l'Ukraine et la Russie au tout début, mais sans plus. Là, on demande de prendre position. Récemment, je parlais avec Valérie Beaudoin en ondes vendredi dernier, qui est analyste de la politique américaine, qui disait à quel point Canada et États-Unis ont pris une distance à travers les dernières années, autant dans l'alliance que la façon de voir les choses. Avant, Canada et les États-Unis avaient la main dans l'une dans l'autre. Là, maintenant, on est un plus fait de vos affaires, chacun de votre bord, puis on verra ce qui va arriver si on a besoin d'avoir une alliance. Et ça a amené certains conflits, conflits sociaux ou conflits politique au sein des citoyens et des citoyennes? Parce que là, est-ce qu'on se range plus d'un côté conservateur parce qu'on a encore les années Harper de cette gestion peut-être de crise internationale en tête, ou on reste avec les libéraux? Le NPD, j'en parle pas parce que là, bon, c'est une déconfiture, là. Mais malgré tout, Boris, toi, tu le vois chaque jour, cet enjeu-là qui est ramené, qui divise même le Parti libéral, comme tu l'as bien exposé. Pourquoi est-ce que ça prend autant de place? C'est-tu parce que là, des étudiants ont commencé à manifester? Est-ce que c'est parce que vraiment c'est une position que le Canada voulait prendre et doit prendre? Est-ce que c'est parce que ça va jouer sur la campagne électorale si on n'en parle pas assez? À quel moment ça a commencé à prendre la place dans tes scrums du côté d'Ottawa?
Oh, ça prend énormément de place cette semaine. À toutes les fois qu'il y a un événement comme, par exemple, la récente demande de mandat d'arrêt à la Cour pénale internationale contre le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, ça a été une petite bombe, là. Donc, nous, ici à Ottawa, on porte un peu cette nouvelle-là en demandant au gouvernement Trudeau, ben, vous en pensez quoi? Le Canada est membre de cette institution-là internationale. Est-ce que ça veut dire que, advenant que le mandat est effectivement délivré, on va prendre ça là, ce mois-ci, est-ce que le gouvernement du Canada pourrait carrément passer les menottes au premier ministre d'un pays allié, Israël? Tu sais, c'est une question très, très concrète. Là.
Oui, puis c'est énorme comme enjeu. Là.
Mais oui, exactement. Et on a vu le premier ministre éviter la question et la ligne gouvernementale être carrément entre l'arbre et l'écorce, parce qu'on a des alliés du Canada qui ont des positions très différentes là-dessus. Les États-Unis disent que c'est complètement scandaleux comme demande de mise en accusation. Et on a la France qui dit, ben nous, cette institution-là, on y croit, et peu importe ce qu'elle va décider, on y souscrit, on va l'écouter. On a vu au sein du gouvernement Trudeau les deux positions.
Comment elle se développe? Qui dit quoi par rapport à la Palestine et qui dit quoi par rapport à Israël? Parce que même dans les dernières heures, le Canada reconnaîtra la Palestine au moment opportun. Ça a été la citation de Justin Trudeau, mais il est quand même déchiré avec cette possible arrestation. Ben, si ça arrive, c'est beaucoup plus une image que d'autres choses. Mais malgré tout, qu'est-ce qui se dit au sein des libéraux par rapport à Israël et la Palestine?
Ben, je t'explique, par exemple, avant-hier midi, Chrystia Freeland faisait un point de presse, la vice-première ministre du Canada. J'étais le premier en file pour y poser une question, donc je lui ai demandé, Mme Freeland, vous en pensez quoi de cette mise en accusation? Et là, elle a dit à quel point, en réponse à ça, elle a dit « ce n'est pas correct, le Canada ne trouve pas ça correct de mettre sur le même pied d'égalité des responsables terroristes du Hamas et des responsables israéliens. » Donc, ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que sur cette demande-là, autrement dit, le Canada est un peu choqué par ça. Alors que la ministre des Affaires étrangères du Canada, celle qui est officiellement en charge de la diplomatie canadienne, Mélanie Joly, on lui demande la même question l'après-midi même, elle nous dit « Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalence, mais les crimes qu'on reproche au Hamas sont très différents des crimes qu'on reproche aux responsables élus israéliens. »
Oh, là, il faut être donc, allumé dirait, comme journaliste, ouais, parce que c'est du bonbon.
Elle nous donne une nuance qui est contradictoire avec la nuance de sa collègue tout à l'heure. Et c'est pas du tout anodin, parce que ces deux femmes-là ont dirigé la diplomatie canadienne. Madame Freeland était la ministre, il y a quelques années, des Affaires étrangères. Et elle a toujours gardé un peu les mains proches de ce dossier-là. Elle était sur l'Ukraine. Elle est très proche des responsables américains. Elle représente aussi Toronto, un peu dans le Parti libéral du Canada, évidemment, alors que Mme Joly, on est plus dans le multilatéralisme. Hein, elle veut donner un coup de barre vers les institutions internationales, un peu d'alignement plus européen. Là, c'est ma simplification. Et elle représente évidemment la partie québécoise du Parti libéral du Canada. Donc, il y en a beaucoup là-dedans. Mais ça montre à quel point c'est pas facile quand on est le gouvernement Trudeau de concilier ces deux perspectives-là, qui ne s'entendent pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec des dossiers chauds comme ça? Si ça continue encore, ça pourrait, jusqu'à l'élection, le traîner et faire beaucoup d'insatisfaits au jour du vote.
Ça risque d'être des semaines vraiment difficiles en tant que journaliste, en même temps extrêmement intéressantes, mais je pense que pour la première fois, je vais dire au micro, que je n'ai aucune idée où est-ce qu'on va s'en aller au Canada avec tout ce qui s'en vient en termes de défis politiques. Boris,
on n'a même pas parlé de Trump.
On n'a pas parlé de Trump.
Il est au coin du couloir. Est-ce qu'on est prêt? Point d'interrogation.
Point d'interrogation et d'exclamation à la fin, parce que c'est des visions qui sont quand même différentes. Là, les gens rient parce qu'il y a eu une publicité qui a commencé, puis on a entendu un genre de bruit mexicain. Là, on s'excuse. Là. mais c'est dû à un article de presse. Là. Mais ça, par contre, ça va être... écoute, là, Boris, là, tu as plus d'expérience que moi dans les médias. Ça fait plus longtemps que tu es là. Puis je veux terminer avec cette question-là. C'est-tu la première fois que tu vois ça? Qu'on n'est pas nécessairement en selle, qu'on ne sent pas qu'on est orienté ou du moins qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais tout parti confondu et tout palier gouvernemental confondu?
C'est, le Canada a quand même traversé des crises pas mal importantes dans son histoire. Hein. C'est un peu dur à dire ta question. Ça dépend sur quel point de vue, j'imagine. Mais il y en a eu des changements quand même très majeurs. Hein. En 2015, il y a maintenant 10 ans, quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, le Parti libéral du Canada était troisième dans les sondages. Donc, c'était un peu le NPD de l'époque. Et M. Trudeau a réussi à monter la barre. Donc, des fois, on a des impressions, mais on peut être surpris aussi par la tournure des événements. Donc, moi, dans mon travail, pour répondre à ta question, désolé, ça n'irait pas tout à fait, mais moi, je suis surpris au quotidien par les tournures des événements, par des choses que je ne croyais pas possibles et qui deviennent possibles. Donc, moi, je ne suis pas prêt à faire des paris sur l'année prochaine. Je ne suis pas prêt non plus à faire des prédictions. Je ne peux que rapporter, disons, au quotidien, les choses qui, moi, attirent mon attention et qui, moi, me surprennent comme ça dans mon travail. Et ça, je trouve que c'est la...
Ben, on va se tenir au courant alors, Boris, puis on va surveiller ce qui te surprend au quotidien, puis on va essayer de faire en sorte de mettre ça dans notre panier. Merci beaucoup, Boris Proulx, journaliste au Devoir. On te laisse aller justement essayer de suivre ce qui se passe sur la colline à Ottawa, puis on te reparle prochainement.
C'est un plaisir, Pascal. Bye.
Salut, une bonne journée. Ouais, et là, c'était, je m'excuse, là, le petit aparté de Mariachi. Mais Boris Proulx, allez lire ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est bien implanté. Puis c'est intéressant d'aller faire un petit tour une fois de temps en temps du côté d'Ottawa parce qu'officiellement, ça reste que les décisions qui sont prises ont des impacts assurés sur nous. Puis tiens, pour terminer justement ce segment-là, qui va être possible de reprendre sur le site de BLVD 102, on va s'en offrir pour vrai. Et de l'autre côté de la pause, Dave Ricard de la distillerie des Appalaches va venir nous dire un beau petit bonjour à l'émission. Vous êtes dans leur CV, trompez-vous pas.
C'est payant des...
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102.
On est de retour à l'émission « L'heure CV sans les mariachis ». Ils ont décidé qu'ils avaient fait tout un spectacle impromptu au courant de la chronique avec Boris Proulx. Hey, je suis désolée si des gens étaient en voiture puis ont fait un sapristi de saut. Mais par contre, on a eu un fou rire incontestable du côté de cette pause-là publicitaire. Puis on s'est dit, ben là, pendant qu'on est festif, qu'on est dans le party, on va inviter notre ami Dave Ricard qui est juste au coin. Salut Dave Ricard de la distillerie des Appalaches.
J'ai pas de tequila pour toi, par exemple, désolé.
Hey, toi, tu pleurais de rire, tu l'as même pas vécu.
Non, t'sais. Mais t'es tellement une bonne raconteuse. Là. Tu viens de me conter ça en deux minutes, je l'ai vécu.
Ah, oh, sainte! Alors, on vous salue tous si vous avez fait un petit aparté au Mexique avec nous, mais ce serait le fun d'avoir le soleil. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est une petite journée un peu plus relax. Par contre, on peut se réchauffer puis on peut être heureux pour le week-end qui s'en vient. Je te parle de température, Dave, parce que je sais que toi, ça va faire une différence sur ton week-end. T'as décidé d'être fou, complètement fou, et d'organiser un festival à ta distillerie. Et c'est en fin de semaine que ça se passe, le Appalaches Fest.
On est en train de s'installer, c'est demain que ça commence. Fait que là, on est dans les préparatifs, on monte les clôtures, la scène et tout ça. C'est une grosse journée aujourd'hui. Puis demain matin, à partir de 10 h, les gens peuvent passer. Le site est ouvert, gratuit. Fait que même si tu n'as pas tes billets encore, tu peux venir chercher les nouveautés à la boutique. à partir de 10h demain matin.
Là, tu parles de nouveautés, c'est parce que tu en as quelques-unes qui sont sorties veux, veux pas. Tu étais venu nous voir avec Frédéric de Forks and Folks.
Yes.
Puis, tu nous avais parlé des prêts à boire à la pêche. On avait goûté, on en a racheté le week-end. On s'est envoyé des photos, Fred et moi. On est vraiment fans de ce produit-là. Ça goûte les petits bonbons à la pêche. Puis, on se dit tout le temps, pourquoi pas encourager les gens de notre région, les gens qui font un peu rouler l'économie, oui, du Québec, mais de la capitale nationale. Puis là, tu dément un peu ça, mais en étant plus positif encore, parce qu'on te choisit tout simplement parce que c'est bon. Fait que ça, ça vient en deux pour un. Puis c'est pas parce que t'es partenaire avec nous, c'est parce que c'est sincère. Puis là, en fin de semaine, les gens qui vont se déplacer vont pouvoir boire à peu près tous tes produits, dont deux nouveaux que tu as lancés dans les derniers jours. Il y en a un qui s'appelle Coup de foudre.
Oui.
Ça, j'adore.
Et celle-là, ça va être, je pense, celui qui va être le plus dangereux pour l'été. Là, le coup de foudre, fait qu'on est sur le fruit de la passion. L'Aronia du Québec. Donc, il y a une plantation, là, c'est des gens de l'Université Laval qui ont parti ça il y a déjà quelques années. Ça prend un certain temps, là, que je pense que c'est 3 ou 4 ans avant que les fruits soient matures. Et cette année, ils l'étaient. Fait qu'on les a encouragés. C'est très local, très, très local. Donc, l'Aronia, qui est un petit fruit là, qui était utilisé par les anciens au début des colonies.
Oui, parce qu'on n'entend jamais parler de
non,
ça. Ils ont recommencé cette culture-là.
Ouais.
Donc, ils sont allés en cueillir quelques-uns qui restaient, puis ils veulent recommencer à ce que ça pousse un peu partout.
Exactement, que ça devienne un petit fruit qui est une fierté québécoise, un peu comme la canneberge, comme le bleuet sauvage du Saguenay. Fait que l'Aronia...
L'argousier qui est revenu dans les dernières années aussi. Ça ressemble à ça un peu hein, en termes de grappe?
Oui, dans le fond, ça va ressembler à la couleur d'un bleuet. C'est un peu plus amer. Hein. On va être plus sur des arômes. Le goût peut ressembler un petit peu à un bleuet, mais plus amer. Je te dirais que c'est des arômes qui vont ressembler là, à la cerise de terre, peut-être un petit peu astringent là, qui va assécher la bouche. Bien dosé dans un gin, c'est parfait parce que justement, on veut avoir un petit côté amer. On veut pas seulement que ça soit fruité. Fait qu'on l'a utilisé pour ces fins-là dans le coup de foudre, la nouveauté là, qui est disponible à partir de 10h demain matin.
Vous êtes bien content en plus de l'avoir. Il va être disponible à SAQ aussi.
Oui, mais tu sais, il faut attendre encore un 3-4 semaines. Fait que si vraiment là, tu t'en peux plus puis que tu veux goûter à la nouveauté, en fait, on en a deux. Là. Il y a le cas que je pourrais te parler aussi. Mais si tu veux goûter aux nouveautés, là, c'est vraiment à la boutique au 1570 des Rivières, route l'Allemand. Fait qu'on est à Lévis. Fait que toute la journée demain, c'est disponible. Puis même pendant les shows le soir, si le spectacle t'intéresse un peu moins, la boutique va rester ouverte, est accessible. Fait que tu peux venir quand même chercher tes bouteilles en soirée.
Et déguster aussi.
Voilà.
Dis-nous, Dave, là, demain, c'est Mariana Mazza à la tête d'affiche.
Aha.
Elle est en feu?
Elle est en feu. Elle revient de vacances. Là. Elle était dans le sud. Elle nous a contactés cette semaine là, pour dire qu'elle était très contente de venir du côté de Lévis. Je pense que c'est quand même une bonne amatrice de spiritueux. Fait que je pense que c'est quelque chose qui lui plaît bien là, de pouvoir donner une prestation là, de notre côté. Fait qu'on est bien content de ça.
Vous êtes content. Puis il y a aussi un autre band qui va venir s'illustrer là, au Appalaches-Fest. Ça, c'est samedi. C'est
ouais.
Un band qu'on connaît, qu'on tourne beaucoup à Boulevard 102.1. Là.
Oui, puis je te dirais, là, tu sais, dans la journée, c'est encore une journée familiale. Tu vas avoir les jeux gonflables, tu vas avoir tout ça. On annonce du soleil, tu me l'as dit tantôt,
oui,
là,
oui.
Ce jour-là. Okay.
Non, je te jure, les 3 jours, le 20 degrés pour vendredi, pour samedi, dimanche 19, mais soleil.
Fait qu'à partir de 17h30, c'est pour les détenteurs de billets. On défait les jeux gonflables, on laisse place à Clean Friends, dont j'entends...
Tu vas bouger ton pain.
J'arrive pas le choix. Au pire, on prend un cocktail de plus.
Les billets, on peut les acheter où?
Les billets sont sur le appalachedistillerie.com dans la section Appalaches Fest. Sinon, tu peux aller sur le point de vente directement.
Dépêchez-vous, par exemple, ouais. Parce que là, avec le beau temps, le fait que c'est à côté, avec les artistes comme Mariana Mazza, puis encore Clay and Friends, ça va partir très rapidement. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la famille, malgré tout. Les spectacles sont accessibles, justement, à tous ceux qui veulent venir. Là.
Oui, je viens, ça vient toujours avec un petit, des petits critères, des petits écriteaux en petit, voyons, je vais te le dire. pour Mariana Mazza, évidemment, c'est il y a du langage un peu cru, là.
Oui.
On la connaît bien. Mariana
oui.
Est reconnue pour ça. C'est cinglant un peu. Fait qu'on fait attention pour les jeunes enfants. S'il y a des oreilles sensibles, reste que mes enfants vont être là. Puis je pense qu'ils voient pire des fois sur YouTube puis sur TikTok. Là. Fait que c'est correct.
Y a-t-il des gens sur Twitch ou encore au 88-971-1021 qui vont être de la partie avec notre chum Dave qui sort des nouveaux produits qui seront accessibles quasiment en exclusivité pour vous à la distillerie demain vu que c'est la journée de sortie qui s'en vont au Appalaches Fest? En tout cas, là, il y a déjà des gens qui sont comme là, Dave, y a-tu une paire de billets à gagner aujourd'hui? On a tout ça, nous autres, dans notre petite poche?
Je l'ai pas dans ma poche physiquement, mais dans ma poche virtuelle, on va en trouver.
On pourrait faire ça? OK, OK. Bon, ben là, Appalaches-Fest, c'est en fin de semaine. Allez voir nos amis directement sur place. C'est trippant, votre coin de pays, à la distillerie des Appalaches. C'est trippant aussi de passer l'été avec vous en produit, mais merci d'ouvrir l'été avec le Appalaches-Fest. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le monde tripper sur place. J'ai hâte de voir les photos qui vont découler aussi, parce que c'est sûr que ça va être un peu partout sur les réseaux sociaux. Puis merci d'avoir fait ça pour nous à Québec. Puis vraiment belle continuité là-dedans.
Bien, merci. On veut pas être uniquement une industrie du spiritueux. On veut être vraiment dans le plaisir. Fait que nous autres, c'était une suite tout à fait logique d'y aller là, dans le festival. Si ça marche aussi bien et si les gens apprécient autant qu'on pense, ben il y en aura peut-être une deuxième édition l'année prochaine. Qui sait? On a capoté
ça,
un peu, et c'est vraiment beaucoup de travail. Reste que là, une fois que le chemin est fait, là, on commence à respirer un peu plus. Fait qu'on a hâte de vous voir demain. Là. Venez en grand nombre. Il va rester des billets un petit peu disponibles à la boutique là, si vous venez.
Sur place aussi?
Sur place, oui, okay. Oui. Okay. C'est sûr que faut les acheter quand même sur le point de vente. Fait qu'il y aura un iPad de disponible là, pour que vous puissiez faire vos achats. Autant là, des spiritueux, mais aussi les billets, si vous les voulez. Reste que, il n'en reste pas tant que ça. Là.
Faut
on n'a pas
dépêcher,
grand stationnement que ça. Là. Fait que, c'est peut-être mieux de les acheter aujourd'hui si vous pensez vraiment venir.
Oui, et puis c'est pour les 5 ans de l'Appalaches distillerie. Puis c'est ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté jusqu'à maintenant. Entrée gratuite de 10h à 17h, les jeux gonflables pour les tout-petits, les food trucks qui sont sur place de 10h à 23h, toute la journée quand vous avez faim, vous allez pouvoir manger. Mm-hmm. Puis dès 18h, c'est là où il faut nos billets pour les spectacles puis les cocktails, en fait.
Oui.
Toute la programmation sur le distilleriedesappalaches.com. Manquez pas ça. Il y a aussi la DJ Sheldy qui est là vendredi. Elle est vraiment, vraiment bonne. Je l'ai vue plusieurs fois en spectacle. Elle était au Glyphes aussi là, récemment.
Excellente. Souvent, elle va piger là, dans les vieux souvenirs des années 90-2000, les dance floor hits. C'est vraiment intéressant comment c'est mixé là, à la sauce un peu plus 2024. Vraiment excellente. Fait que le party va lever en fin de soirée demain soir. Et en after party, c'est du monde aussi qui sont capables de faire lever party. Jay et sa gang de Blue Ridge Band.
Oui!
Jay qui est un ancien star académicien, là, si vous ne le replacez pas, il vient souvent là,
ils sont tout le temps avec nous autres. Là, mais oui.
C'est vraiment du bon monde. Puis c'est du monde de party. Fait qu'ils connaissent bien nos produits. C'est des ambassadeurs de notre marque. Et ils vont terminer la soirée avec vous autres. C'est clair que ça va bouger.
Faut pas manquer ça. Vous allez le regretter. Au moins, on vous l'aura dit. Mais vous savez déjà que vous allez regretter si vous manquez ça. Puis c'est parole de Pascal CV. Pour gagner la paire de billets qu'on a obligé, mais il est tellement généreux qu'il dit oui, il embarque dans la niaiserie. Je vais poser une question sensible. 88-971-1021. Quel type de musique on a entendu de manière impromptue dans la chronique de Boris Proulx il y a quelques minutes dans leur CV? 88-971-1021. Merci, Dave. Bon week-end sur le soleil.
Aïe, aïe, aïe.
Bon week-end au Appalaches Fest. C'était un plaisir de t'avoir avec nous en studio. Puis allez vous gâter dans tous les sens du terme. Un peu moins d'un plaisir de la chair, ça vous appartient. Mais du côté d'Appalaches distillerie en fin de semaine. Nous, on s'en va en musique avec La Folie en 4. Hate It Too à Boulevard 102.1.
Qu'un de ces jours, la folie.
Je vais faire un signe.
D'avoir au minimum le numéro de téléphone.
Mmh.
avec Pascal CV.
Ah, il s'en est passé des affaires pendant ce show-là. On a ri à en avoir les larmes aux yeux. On a été très sérieux aussi. On a parlé de politique du côté d'Ottawa. Il y a des choses qu'on avait à aborder. Il y a plein de nouvelles importantes aussi. On va faire un tour avec notre cher Thomas un peu plus tard dans Marceau le midi parce que oui, ça tire à sa fin. En fait, l'heure CV tire à sa fin. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans toutes ces folies-là. Je vous rappelle que le Appalaches Fest, c'est en fin de semaine. Du côté de la distillerie des Appalaches, Devricard est venu faire son tour. On adore ça quand il vient. Fait qu'encore plus quand ils travaillent fort pour qu'on ait un festival comme ça. Et je sais que vous êtes beaucoup en ce moment sur Twitch. Je sais aussi que vous nous alimentez, vous jasez avec nous. Si on laisse des micros ouverts, vous nous le dites. S'il y a une chanson étrange qui part, vous nous le dites. Vous êtes là autant pour nous qu'on est là pour vous. Alors, pour tous ceux qui sont sur Twitch en ce moment, OK? Peut-être que ça vous intéresse de savoir que je cachais, moi aussi, dans le fond de ma poche, quelque chose de bien intéressant à vous donner à la fin de l'émission. D'un coup, que ce serait ça que j'ai à vous donner.
Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I keep my arm bleeding.
D'un coup, que c'est une paire de billets pour venir au spectacle acoustique privé de Boulevard 102.1 et de Papa Roach que je cachais dans ma petite poche jusqu'à la fin du show. Vous le savez que c'est une soirée unique en association avec le Centre de prévention du suicide. Pourquoi? Ben parce que c'est important, quand on fait un événement comme ça, de lier avec du gros fun, mais pour des bonnes causes, comme justement la santé mentale, c'est un thème qui est récurrent dans tout ce qui est l'œuvre de Papa Roach. On s'est dit, pourquoi pas, Centre de prévention du suicide de Québec. C'est des services professionnels spécialisés. On promouvoit en fait cette prévention-là avec le spectacle VIP. Ça va se passer en dessous de nos bureaux, dans la salle en bas que vous connaissez très bien, la Seine-le-Bourgneuf. Un genre de moment rock and chill, comme l'émission d'Audrey la fin de semaine, acoustique avec nul autre que Jacobi Shadik, le leader de Papa Roach. C'est le 3 juin prochain. J'ai une paire de billets pour vous. Je vous demande une affaire, OK? Sur Twitch, je vais faire un signe, comme hier. Puis après ça, c'est le 418-780-1021. Je vais mettre la caméra bien en place, puis je fais ça ici. Le signe est fait, il est clair. 418-780-1021, si vous voulez cette belle paire de billets-là. Merci d'avoir été dans l'heure CV. On se retrouve dans un instant avec Marceau de midi. On en a plein de choses à dire. Puis on fait le tour de l'actu, puis on a nos invités spéciaux comme d'habitude. À demain, sinon, 10h, puis toute la programmation habituelle, bien sûr. Je suis bien contente de finir avec... un gars que j'aime particulièrement, qui est venu dans le retour récemment. J'ai tellement écouté cette chanson-là. Ça fait partie un peu de mes incontournables, si on veut, de la musique québécoise. Ben oui, avec Patrick Bruel puis d'autres, là. Mais ça, je l'adore. Corias, 5 à 7. Très rap de rue de Québec, là. Mais très bon. Hey, salut, à tout de suite.